est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Les chevaux nous aidaient à ramener la charrue dans l'arène.
Mais tu vois, Frédéric, je préférais labourer avec des bœufs. Oui, parce que tes bœufs, d'abord, ils allaient vraiment pas lent.
Oui, hein, et ils tournaient le plus lentement.
Ils suivaient, ils étaient dociles, les bœufs, quand ils étaient bien dressés, bien entendu. Oui. Au début, c'était difficile, mais après, ça allait tout seul. Oui. Et tu n'avais pas besoin de guide et tout ça, tu avais les mains dans tes poches, et puis hop, ça allait droit au bout.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, exceptionnellement aujourd'hui en direct de Blois par Emmanuel Laurentin. Bonjour, depuis le début de ces 24e rendez-vous de l'histoire de Blois, auquel France Culture est étroitement associée, beaucoup, beaucoup a été dit sur le travail et le dur labeur des hommes. Mais nous ne devons pas oublier pour autant qu'auprès de ces humains, joyeux ou souffrants, se tenaient des compagnons, qu'ils soient canins, équins ou bovins, dont le rôle est longtemps resté dans l'ombre. Nous allons donc parler des travailleurs machines animaux qui ont accompagné la croissance industrielle ou agricole de l'Europe au 19e et 20e siècle. Notre attention décuplée aux animaux. Lundi dernier, c'était le 4 octobre, leurs défenseurs ont célébré, comme depuis presque 100 ans, la journée mondiale des animaux. Cette attention nous fait souvent oublier qu'ils ont, un siècle et demi durant, tiré des wagons de charbon au fond des mines, été sélectionnés pour traîner des charrues de plus en plus lourdes, qu'ils ont emporté des tombereaux de déchets dans nos villes et qu'ils ont tenté difficilement de s'extraire eux-mêmes des terres profondes et boueuses de la Somme pendant la Grande Guerre. Un oubli réparé par les historiens qui ont depuis une vingtaine d'années profondément renouvelé le regard porté sur ces moteurs vivants, comme on dit, dont la multiplication a été parallèle, et c'est peut-être paradoxal, à celle de la force mécanique des machines à vapeur. Dans cet ensemble de recherches brille l'œuvre de notre invité, Éric Baraté, professeur à l'Université de Lyon 3, qui s'est intéressé en particulier dans le cours de travaux très originaux aux bêtes de Somme et aussi pour la Grande Guerre aux bêtes des tranchées. Il nous a donné des biographies animales où il nous montre qu'il n'est pas impossible de quitter l'anthropocentrisme pour se placer du point de vue des bêtes elles-mêmes en restituant quelque chose de leur histoire telle qu'elles peuvent la vivre depuis l'intérieur de leur destinée. Son regard va nous être utile pour comprendre comment, au conseil que l'historien Jean Daigneault donnait à ses étudiants parmi lesquels Georges Duby, et surtout, quoi que vous enseigniez, n'oubliez pas l'immense peine des hommes. Il serait désormais important d'y ajouter un codicille. N'oubliez pas non plus l'immense peine des animaux.
Le pesant chariot porte une énorme pierre. Le limonier, suant du mort à la croupière, tire et le roulier fouette et le pavé glissant monte et le cheval triste a le poitrail en sang. Il tire, traîne, geint, tire encore et s'arrête. Le fouet noir tourbillonne au-dessus de sa tête. C'est lundi. L'homme hier buvait au porcheron un vin plein de fureur, de cris et de jurons. Oh, quelle est donc la loi formidable qui livre l'être à l'être et la bête effarée à l'homme ivre? L'animal éperdu ne peut plus faire un pas. Il sent l'ombre sur lui peser. Il ne sait pas, sous le bloc qui l'écrase et le fouet qui l'assomme, ce que lui veut la pierre et ce que lui veut l'homme. Et le roulier n'est plus qu'un orage de coups tombant sur ce forçat qui traîne les licous, qui souffre et ne connaît ni repos ni dimanche. Si la corde se casse, il frappe avec le manche, et si le fouet se casse, il frappe avec le pied. Et le cheval, tremblant, hagard, estropillé, baisse son cou lugubre et sa tête égarée. On entend sous les coups de la botte ferrée sonner le ventre nu du pauvre être muet. Il râle, tout à l'heure encore il remuait, mais il ne bouge plus et sa force est finie. Et les coups furieux pleuvent, son agonie tente un dernier effort, son pied fait un écart, Il tombe et le voilà brisé sous le brancard. Et dans l'ombre, pendant que son bourreau redouble, il regarde quelqu'un de sa prunelle trouble, et l'on voit lentement s'éteindre, humble et terni, son œil plein de stupeur sombre de l'infini, où lui vaguement l'âme effrayante des choses.
Voilà un extrait de Mélancolia de Victor Hugo dans Les Contemplations, 1856, lu par Romain Renucci. Victor Hugo, il dénonce les conditions de travail de son époque et n'oublie pas les animaux, parce que nous sommes au milieu du 19e siècle. Éric Baraté, bonjour.
Bonjour.
Et que ce milieu du 19e siècle est un moment essentiel pour comprendre notre histoire, justement, du rapport aux animaux et surtout la croissance considérable du nombre d'animaux dans la société occidentale de cette époque.
Oui, la révolution industrielle et la révolution agricole se font avec les animaux. C'est vraiment eux qui sont à la pointe, avec les humains évidemment, hein. Mais jamais on a autant mobilisé d'animaux qu'à cette époque-là, aussi bien en ville, comme on vient de le voir, pour tout ce qui est transport, mais aussi dans l'industrie, dans la batellerie, qu'on oublie aussi souvent, mais la première moitié du 19e siècle, c'est le grand essor de la batellerie, et les bateaux sont tirés par des chevaux, aussi par des humains, mais de plus en plus par des chevaux au 19e siècle.
Ça veut donc dire que lorsqu'on imagine l'invention de la vapeur, le chemin de fer, etc., on se dit bah, ça a économisé des forces du côté des animaux. Pas du tout, en l'occurrence.
Non, parce que, par exemple, le train fait qu'il y a plus de marchandises qui circulent, mais lorsque vous arrivez, les marchandises arrivent dans les gares, il faut les disperser. Et là, ce sont les chevaux ou les mulets qui sont réquisitionnés, donc pour amener les marchandises, pour amener les gens à la gare. Et puis il y a des endroits où le train ne passe pas avant le début du XXe siècle, mais il n'empêche que les échanges augmentent et on a besoin de plus en plus de ces animaux.
Alors, il y a quels animaux sont auprès des hommes dans cette époque-là, Éric Baraté? J'imagine que ça n'est pas la même chose au nord de la France ou dans des pays voisins, et qu'on n'utilise pas de la même manière la force animale.
Oui, il y a des spécialisations. Alors, le nord de la France, c'est beaucoup les chevaux. Ça, c'est très ancien, c'est depuis le Moyen-Âge. Mais il y a aussi un recours, on l'a entendu tout à l'heure dans l'annonce de l'émission, il y a aussi un recours aux bovins, parce que les bovins ont une puissance, ils sont plus lents, mais ils ont une puissance de fond. Lorsqu'il faut labourer profond, par exemple, il vaut mieux des bœufs que des chevaux. Dans le centre de la France, le massif central, par exemple, ce sont les ânes. Les ânes, les mulets, parce qu'il y a encore peu de chemins accessibles jusqu'aux années 1860. Et donc, c'est beaucoup par sentier muletier. Et dans le massif central de l'époque, il y a une race d'ânes tout à fait petite, en grande partie parce qu'on les nourrit mal, mais les hommes aussi sont mal nourris. Et ces animaux font du rachitisme, comme les hommes. Et par exemple, Stevenson, lorsqu'il part avec son âne, avec Modestine dans les Cévennes, il le dit, Modestine n'est pas plus haute qu'un chien. Alors on peut dire, de nos jours, quand on voit les ânes actuels, il exagère. Non, quand on regarde les traités d'élevage de l'époque, il y a bien cette race du massif central.
Quand on réfléchit à ces personnages que sont, puisque vous les considérez comme des personnages, que sont ces animaux qui accompagnent les hommes dans leur travail quotidien, on oublie qu'il faut aussi penser à une France évidemment rurale, si on s'intéresse à la question de la France, mais aussi à un changement des méthodes culturales. Pendant très longtemps, les bovins, par exemple, allaient paître dans les forêts. Cela va se transformer. On va créer des pâturages, par exemple, ces formidables pâturages que l'on voit sur toutes les publicités pour les régions rurales aujourd'hui. Eh bien, ce sont des images qui sont, d'une certaine manière, relativement récentes dans leur conception comme lieu de vie des animaux.
Exactement. Bah, le meilleur exemple, c'est la Normandie. La Normandie, vers 1820, 20% de prés. Tout le reste est en culture. 1920, 97% de prés. C'est-à-dire que la Normandie verte, avec ses pommiers, ses vaches, etc.
C'est une invention.
C'est une invention récente. C'est une construction récente. Et il faut faire attention à ne pas avoir une image d'épinal de l'agriculture d'autrefois. C'est celle du justement qu'on a dans les têtes, c'est celle des années 1900. Mais qui, dans beaucoup d'endroits, relativement récente. Et on a peu d'animaux jusqu'au 19e siècle. Avoir une vache en 1850, c'est un signe de richesse. Hein. Par contre, une vache seule en 1914, c'est un signe de pauvreté. Hein. On voit le changement. Dans le Massif central, au Chambon-sur-Lignon, où on cache des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un critère pour placer les enfants dans les fermes, un critère d'aisance. Il faut avoir 3 vaches. Hein. C'est le critère d'aisance. Et vous voyez que ça reste quand même très limité encore à l'époque. Hein. Et parmi tous les animaux qu'on a cités, il ne faut pas oublier la vache, qui est très très souvent utilisée. Ce sont des vaches polyvalentes qui servent à labourer, qui servent à tirer la charrette, qui donnent un peu de lait, qui donnent un veau de temps en temps, et qu'à la fin, mais seulement à la fin, au bout de 20-25 ans, on va tuer et manger. Mais ces vaches polyvalentes sont répandues dans les campagnes, jusque dans certaines campagnes, jusqu'à l'entre-deux-guerres.
Quand on entend ce texte de Victor Hugo qui évidemment décrit la mort d'un animal, la mort sous les coups de celui qu'il conduit, on se dit il y a une souffrance animale qui est prise en compte déjà par Victor Hugo. On sait qu'il prend en compte la souffrance des hommes, bien évidemment. C'est récent, cette prise en compte. Je crois que c'était à peu près au même moment que naît la Société protectrice des animaux.
1845, la SPA, 1850, la première loi de protection, qui est faite justement pour les chevaux des villes, et ensuite elle sera appliquée aux chiens. Effectivement, et ce qu'on voit bien, c'est à la fois une montée de la sensibilité à cette souffrance, et en même temps, il y a une montée de la violence. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chevaux, ou d'ânes, ou de mulets, par exemple, dans les villes, et il y a de plus en plus de gens qui les emploient. Mais ces gens ne savent pas forcément bien utiliser les chevaux. Et ça, on le voit au XIXe siècle.
Conducteur de chevaux, ça n'est pas n'importe quel métier.
C'est pas n'importe quel métier. Beaucoup deviennent conducteurs de chevaux en ne connaissant rien des chevaux. Et quand le cheval ne répond pas à ce qu'on voudrait, travailler plus vite, finir plus tôt, etc., que font ces gens qui ne comprennent pas les chevaux? Et ils utilisent la violence. Hein. Alors il y a, et du coup, ça, un cheval battu va avoir encore moins d'envie de travailler. Donc ça accroît encore l'antagonisme. Hein, et cette violence-là, elle est de plus en plus forte à cause de la vulgarisation des chevaux.
Qu'est-ce qui justifie cette vulgarisation? J'imagine que vous nous expliquez que ces animaux coûtent cher, qu'on ne peut pas en avoir quand on est un pauvre paysan, où que ce soit en France. Qui va acheter ces nouvelles bêtes de somme pour pouvoir les utiliser, soit dans l'industrie, soit dans le transport? Comment ça se passe?
Alors, ils coûtent cher, mais ils coûtent de moins en moins cher. La vulgarisation du cheval fait qu'un cheval, en 1900, n'est plus très cher. Et donc, il y a vraiment une diffusion un peu de partout. Parce qu'on produit, on élève de plus en plus de chevaux. Hein, l'offre répond à la demande, et donc les prix baissent. Mais alors les premiers à vraiment développer ça, ce sont les entreprises, hein, les mines, les entreprises de transport, et puis dans l'agriculture, d'abord les grandes fermes, hein, qui développent le cheval, parce que le cheval, c'est à la fois un animal prestigieux, mais un animal qui est entre guillemets, hein, c'est pas une critique, mais capricieux entre guillemets, beaucoup plus difficile qu'une vache ou qu'un âne. Ce qui ne veut pas dire qu'une vache ou un âne, on peut faire n'importe quoi. Un âne, souvent, on dit qu'il est bête, il répond pas, etc. Mais en réalité, c'est parce que les ânes vivent, lorsqu'ils sont violentés, ils vivent une forme de prostration. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas comme un cheval en hennissant, en cabrant, en donnant un coup de sabot.
Mais en entrant en eux-mêmes.
Mais ils se replient sur eux-mêmes. Et ils se figent. Et résultat, là aussi, l'idée est répandue, et d'ailleurs c'est ce que les paysans disent à Stevenson lorsqu'il se promène dans les Cévennes, si l'âne ne répond pas, il faut encore plus taper. Ben, plus on tape, et plus l'âne, évidemment, fait de la prostration.
Et d'ailleurs, il a un problème avec Modestine.
Ah ben, il a un gros problème avec Modestine. Alors il frappe aisément, il n'ose pas le dire dans le voyage dans les Cévennes, hein, ce qui est la version pour grand public, mais dans son journal, qui n'a pas été publié, qui a été publié récemment, il frappe allègrement. Hein. Et puis les paysans lui montrent comment frapper avec une tige, et on frappe sur le postérieur, et là il y va, et évidemment ça fait très mal, parce qu'on sait très bien, on comprend pas toujours les animaux, mais on sait très bien où faut frapper pour leur faire mal et pour qu'ils avancent quand même. Dans les textes sur les maltraitances en ville, on voit bien où est-ce que les gens ils savent frapper au bas-ventre, par exemple, parce que c'est là que c'est sensible.
Alors l'âne, le cheval, on l'a dit, mais aussi le bœuf qui est un animal de trait, qui remplace le cheval de trait souvent, et c'est l'émergence de nouvelles races bovines. On écoute une lecture par Guillaume Gallienne de La mare au diable de George Sand, 1846.
Je marchais sur la lisière d'un champ que des paysans étaient en train de préparer pour la semaille prochaine. La journée était claire et tiède, et la terre, fraîchement ouverte par le tranchant des charrues, exhalait une vapeur légère. Dans le haut du champ, un vieillard, dont les vêtements n'annonçaient pas la misère, poussait gravement sa charrue de forme antique, traînée par deux bœufs tranquilles. Le vieux laboureur travaillait lentement, en silence, sans efforts inutiles. Mais ce qui attira ensuite mon attention était véritablement un beau spectacle. À l'autre extrémité de la plaine labourable, un jeune homme, de bonne mine, conduisait un attelage magnifique. Quatre paires de jeunes animaux à robes sombres mêlées de noir et de fauve à reflets de feu, avec ses têtes courtes et frisées qui sentent encore le taureau sauvage, ses gros yeux farouches, ses mouvements brusques, ce travail nerveux et saccadé qui s'irrite encore du joug et de l'aiguillon et n'obéit qu'en frémissant de colère à la domination nouvellement imposée. C'est ce qu'on appelle des bœufs fraîchement liés. L'homme qui les gouvernait avait à défricher un coin naguère abandonné au pâturage et rempli de souches séculaires, travail d'athlète auquel suffisait à peine son énergie, sa jeunesse et ses 8 animaux quasi indomptés. Un enfant de 6 à 7 ans, beau comme un ange et les épaules couvertes d'une peau d'agneau, qui le faisait ressembler au petit Saint-Jean-Baptiste des peintres de la Renaissance, marchait dans le sillon parallèle à la charrue et piquait le flanc des bœufs avec une longue baguette de bois. Les fiers animaux frémissaient sous la petite main de l'enfant et faisaient grincer les courroies liées à leur front. Tout cela était beau de force ou de grâce. Le paysage, l'homme, l'enfant, les taureaux. Et malgré cette lutte puissante où la terre était vaincue, il y avait un sentiment de douceur et de calme profond qui planait sur toute chose.
Un extrait du roman La mare au diable de George Sand, 1846, lu par Guillaume Gallienne et diffusé dans l'émission Ça ne peut pas faire de mal sur France Inter. C'était le 6 avril 2019. Là, c'est un peu l'envers du texte de Victor Hugo, une sorte de vision bucolique de la campagne avec cette modernisation aussi, parce qu'on voit ce jeune homme qui gouverne des bœufs, qui a défriché un coin naguère abandonné au pâturage et rempli de souches séculaires. C'est vrai qu'on là, on va créer ces pâturages et créer ces prairies dont vous parliez tout à l'heure, Éric Baraté.
Oui, et puis là, ce sont des labours profonds et on a besoin des bœufs. Là, les chevaux ne sont pas suffisants, ils n'ont pas la puissance. Les bœufs, l'intérêt des bœufs, c'est qu'ils ont été castrés. Hein, donc ce ne sont pas des taureaux, contrairement à ce que dit George Sand. Là, elle ne mélange pas, mais elle utilise au niveau littéraire deux mots différents. Mais ce sont des animaux castrés, donc beaucoup plus faciles à conduire. C'est ce qui fait aussi qu'en ville, même dans tous les pays, se développe la castration des chevaux. Hein, on abandonne les étalons au profit des hongres, parce que les hongres ont la force des étalons et la douceur des juments. Mais la castration, elle se fait à vif à l'époque, hein, comme pour les taureaux, et avec dans les conditions d'hygiène de l'époque. Et on sait que ça entraîne une très forte mortalité. Hein. En plus, on fait avec le même instrument de cheval en cheval ou de bœuf en bœuf, donc on transporte évidemment tout ce qui est microbes et compagnie. Donc il y a une très forte mortalité. Mais cette castration, évidemment, c'est une adaptation à ce que je vous disais, c'est-à-dire la vulgarisation des chevaux fait que beaucoup de gens ne savent pas les utiliser et donc on préfère des animaux plus calmes, hein, quitte à ce qu'ils soient castrés.
Alors on a évidemment le développement des villes dans ce milieu et deuxième moitié du 19e siècle, les transformations des grandes cités, évidemment le Paris d'Haussmann et d'autres grandes villes qui changent, et on va développer de façon considérable l'énergie hippomobile, on va créer des omnibus un peu partout qui vont transporter des voyageurs qui doivent aller à leur travail, qui doivent vaquer à leurs occupations, et cela aussi c'est un vrai changement parce que non seulement les villes changent, mais les routes s'améliorent, et donc à partir de ce moment-là, on peut avoir des temps de transport bien plus importants, bien plus courts, et donc avec des chevaux qui transportent justement ces omnibus ou ces fiacres.
Oui, c'est une véritable révolution. Les gens le sentent bien, le vivent bien comme une révolution. Hein. On a des descriptions, par exemple, ils sont très frappés par la vitesse croissante de ces voitures, parce que les routes sont meilleures, ou alors dans les villes, on améliore les rues. Alors ce sont des travaux très différents selon les cas. Hein. Par exemple, pour tirer une diligence, c'est une force continue, régulière. Par contre, pour les tramways, le gros problème pour les chevaux, c'est qu'il faut s'arrêter, repartir, faire 500 mètres, nouvel arrêt, s'arrêter, repartir. Et donc, à chaque fois, il faut donner toutes ses forces pour faire redémarrer, pour vaincre la force d'inertie, hein, l'immobilité. Et c'est très fatigant pour ces chevaux-là, sur des parcours qui font entre 5 à Paris, ça fait entre 5 et 15 kilomètres. Mais c'est la répétition de ces efforts qui sont fatigants.
Alors il y a des nouvelles lois qui vont faire multiplier les chemins en particulier. Ça va être à la campagne. Éric Maraté, on va passer de 70 000 à 538 000 kilomètres entre 1848, au moment où écrit Georges Sand presque, et 1912. Donc c'est considérable comme augmentation. Ça permet aussi de créer des marchés, de créer des foires. Et aussi, évidemment, la concurrence va se mettre en place entre les animaux eux-mêmes, Éric Baraté.
Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a oublié, hein, cette création des chemins vicinaux, des chemins départementaux, etc. dans les campagnes, qui datent essentiellement de la seconde moitié du 19e siècle, et qui va permettre d'avoir des charrettes. On va pouvoir remplacer les ânes bâtés ou les mulets bâtés par des charrettes, avec une stabilité plus importante, les poids peuvent augmenter, et puis le conducteur ou la famille peut se mettre sur la charrette aussi, ce qui n'est pas le cas avec un âne batté, il faut marcher à côté.
Oui, on sait par exemple que pour les chariots de marée, qui viennent souvent de Boulogne à Paris, par exemple, pour pouvoir transporter la marée, eh bien, on peut quadrupler le prix, le poids de ce que l'on peut transporter, parce que justement, les routes sont meilleures, les chariots sont mieux équipés, les chevaux qui les tirent sont plus nombreux, et donc à partir de ce moment-là, on peut transporter beaucoup plus de marchandises.
Exactement. Alors c'est ce qu'on appelle la chasse-marée, ce que vous citez, la chasse-marée qui venait des ports de la Manche et qui amenait le poisson frais à Paris essentiellement. Ces chevaux étaient poussés, c'est-à-dire qu'on courait. Hein, le chasse-marée, on poussait les chevaux et les gens et les hommes couraient à côté. Hein, ça n'était facile ni pour les uns ni pour les autres. Et on transporte de plus en plus aussi parce que ces chevaux sont plus nombreux, mais ils sont aussi plus gros. Et c'est ce qu'on voit au XIXe siècle, le poids des animaux augmente régulièrement, les vaches, les bœufs, les chevaux, ils sont de plus en plus puissants.
Parce qu'on va les sélectionner, on va faire un travail sur les races équines, les races bovines, on va les primer dans des comices agricoles, et donc à partir de ce moment-là, on va faire d'eux des animaux de concours, pourrait-on dire, Éric Baraté.
Oui, le dernier exemple qui nous reste, c'est le salon de l'agriculture, où on prime justement comme ça les animaux. Mais alors, il y a une véritable explosion de ces concours au milieu du 19e siècle. Flaubert, dans Madame Bovary, en décrit d'une très belle façon. Et ça permet évidemment de répandre dans les campagnes le nouvel animal, l'animal transformé, qui est un animal géométrisé. Hein, on a des gravures de l'époque qui montrent comment le beau cheval, beau et bon, beau et bien, ça va ensemble pour les gens de l'époque.
Kalos Kagatos, quoi.
Voilà. Le beau cheval, le bon cheval, c'est un animal qui doit rentrer dans un rectangle, hein, d'une forme géométrique. C'est pareil pour la vache, le bœuf, etc. Et donc, on sélectionne. Soit on sélectionne les troupeaux sur place, hein, en prenant les éléments. C'est relativement facile à faire parce qu'on sait maintenant que ce sont des critères génétiques d'héritabilité assez, assez faciles à maîtriser. Et donc, soit on sélectionne sur place, soit on importe des animaux d'ailleurs pour croiser avec les animaux sur place. Et on invente comme ça toutes les races que l'on connaît, les races de chevaux. Le boulonnais, l'ardennais, le percheron, le flamand, le breton, le belge, etc. Et les charolais du côté des bœufs et des taureaux et des vaches, les normandes, les charolaises, etc.
Donc là aussi, une invention du 19e siècle.
Oui, alors auparavant, il y a des races, mais ce sont des races régionales, c'est-à-dire dans l'esprit des paysans, appartient à la même race les animaux qui sont nés au même endroit, dans le même pays, même s'ils ont des formes et des couleurs différentes. Hein, ça gêne pas que des Normandes soient noires ou blanches ou etc. Au XIXe siècle, ce qui se met en place, c'est la notion biologique. Tous les animaux d'une race sont semblables. Et c'est comme ça qu'on crée la Normande ou la, le Charolais tout blanc, etc.
Alors évidemment, il y a ces vaches, mais il y a aussi ce cheval, dont c'est l'époque de l'apogée, pourrait-on dire, à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle. Il est partout, ce cheval, il est dans les villes, on l'a dit, il est évidemment dans les campagnes, mais il est aussi dans les mines. On écoute l'interview d'Émile Andréoli, ancien ouvrier mineur à Carmaux, qui se souvient du travail des chevaux. C'était dans les matinales de France Culture en 1983.
On leur faisait tirer des wagonnets, et alors là, ils étaient habitués que... Un cheval qui est habitué, supposons, à tirer 20 wagons ou 22 wagons, au coup de tampon, quand il arrivait à 20 wagons, il s'arrêtait, il ne tirait pas plus, il ne pouvait en mettre un de plus, il ne marchait plus. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que souvent, ces bêtes-là, elles tiraient du charbon pour le dégagement des tailles, elles tiraient du charbon dans de l'eau jusqu'au ventre, hein. Dans de l'eau et de la boue. Vous vous rendez compte qu'il tirait à ce moment-là une vingtaine de wagons qui faisait à peu près... Je sais pas, moi, il y avait 500 kilos de charbon dedans, le wagon en plus, ça vous fait à peu près 650 kilos par wagonnet. Eh bien, il faut le faire. Hein. Les chevaux qui tenaient jusqu'à 10 ans, au fond. Hein. Quand ils sortaient, ils étaient aveugles. Ces chevaux-là, ils ne pouvaient pas, la lumière leur faisait mal. Quand ils sortaient, ils étaient bons pour l'écarissage, mais enfin, c'était bête qui était rude. Hein. Il y a des gars qui ils les matraquaient à coup de trique ou à coup de ceinturon ou alors à coup de bourroir, là. Et bien, ça se fait pas, ça, pour les bêtes comme ça. Il aurait mieux valu les voir dehors. Les pauvres bêtes, ça, c'est pas intéressant de voir des bêtes comme ça. C'était obligatoire à ce moment-là. On n'aurait jamais pu faire le travail sans les chevaux. Ils avaient tous chacun leur nom, quoi. Moi, j'ai eu affaire avec Kleber, Tampon, Tacite. Hein. C'était des chevaux, ça, qui étaient terribles. Moi, je me rappelle tout le temps, il y avait un Tacite, un petit pommelé breton, là. Il était un peu trapu, mais alors un cheval d'une force terrible. Hein. Moi, je l'ai vu décrocher les wagons dans la boue, mais alors d'une façon où seulement il se traînait par terre, mais il fallait qu'il avance. Hein. Rien que la parole, hein, il n'y avait pas besoin de le toucher, celui-là. Hein. C'était un animal qui travaillait, je vous dis, du matin au soir. Hein. Il sortait quand même dans les 300-400 wagons, rien que dans la matinée. Hein.
300-400 wagons tirés par le même cheval, Tacite.
Oui, je ne savais pas que Tacite s'était réincarné au XIXe siècle.
On apprend tout. Un petit pommelé breton, donc ces bretons dont vous dites que c'est une race donc travaillée au XIXe siècle, et bien la voilà dans les mines, cette race.
Oui, alors dans les mines, il y a deux races essentielles, les bretons et les belges. Parce qu'il faut que...
les animaux.
Les animaux. On a bien compris. Au niveau chevalin. Parce qu'en fait, pour les mines, ce sont les chevaux des mines, ce sont des chevaux un peu carrés, c'est-à-dire robustes, mais il faut pas qu'ils soient trop hauts parce que la mine n'est pas très haute. Et il faut pas qu'ils soient trop longs non plus parce qu'il faut qu'ils puissent tourner. Lorsqu'il a fini d'emmener son train de wagons plein, on va le décrocher, on va le ramener plus loin, il va ramener des wagons vides. Il faut qu'il puisse tourner dans la largeur de la mine. Donc on fabrique comme ça, par croisement là aussi, un cheval bien adapté, robuste, solide, qui se cramponne bien. Mais comme le témoignage l'a bien dit, il y a de très fortes différences entre les chevaux. Il y a des chevaux qui s'adaptent, d'autres qui ne s'adaptent pas.
Enfin, il faut dire qu'il faut les descendre à la mine. Ils ont peur, ces chevaux.
Ah, ils ont...
ils ne voient plus la lumière du jour, ils ne savent plus où ils sont d'une certaine manière, et certains meurent même en descendant dans la mine.
C'est l'une des premières sélections, la descente, hein, puisqu'on les descend, au départ, on les descend attachés, donc quand le cheval se sent soulevé et qu'il ne touche plus terre, là, il panique littéralement. Hein, ce qui fait qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, on va leur mettre un masque pour qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Et puis ensuite, première moitié du XXe siècle, ben, on va utiliser les ascenseurs, hein, ce qui sera plus facile. Mais c'est vrai que c'est la première sélection, celui qui s'adapte à ça. Puis ensuite, il faut s'adapter au travail, il faut s'adapter aux conditions. Il peut y avoir des galeries très chaudes, des galeries très froides avec des courants.
S'il y a des courants d'air, ils peuvent avoir une pneumonie, par exemple.
Exactement. Et un cheval travaille mieux dans un courant d'air froid qu'un courant d'air chaud. Mais bon, on ne lui demande pas son avis. Et puis, il y a aussi des tentations, ça a été expliqué là, de demander plus. Hein, alors ça, c'est une histoire qui court beaucoup chez les mineurs, qui a des chevaux, pas les chevaux, des chevaux, qui savent, mais des chevaux expérimentés qui ont fait plusieurs années et qui savent très bien que lorsqu'on essaye de leur mettre un wagon ou deux de plus, alors comment ils le savent ? Ça, ils ne comptent sans doute pas, mais ils doivent compter le temps ou ils doivent entendre les hommes parler d'une manière différemment lorsqu'ils se disent « Tiens, si on mettait un wagon supplémentaire ?» Il y a sans doute quelque chose comme ça, mais ces chevaux le comprennent et ils refusent à ce moment-là de travailler, ils refusent d'avancer.
Et puis, quand on est cheval, on n'a pas la même condition dans les mines du Nord ou dans les mines du Sud, par exemple.
Oui, il y a très très fortes différences. Hein. Par exemple, les mines de Saint-Étienne, de la vallée du Gier, sont des mines très difficiles à travailler, ça coûte très cher. Et évidemment, les entreprises, pour garder quand même le profit, vont essayer de tirer sur tout, et en particulier sur la condition des chevaux. Et là, la condition est très difficile. Et par contre, les mines du Nord, de la région de Valenciennes, etc., où là, le travail est plus rentable facilement, là, la condition de vie des chevaux est nettement meilleure.
Et de toute façon, ils sont liés au destin des hommes eux-mêmes. Quand on passera à la journée de 8 heures beaucoup plus tard, en l'occurrence Éric Baraté, eh bien on va demander plus aux chevaux eux-mêmes, on va essayer de les faire dormir moins pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient un rendement plus élevé.
Oui, on va essayer de compenser la journée de 8 heures en demandant plus aux chevaux, en leur faisant travailler une dizaine d'heures ou en leur faisant tirer des wagons et des trains plus longs et plus chargés. On compense comme cela. Alors il y a des animaux qui sont adaptés à cela, qui arrivent à se faire et qui prennent même des initiatives. Hein. Ça a été dit dans le reportage, il y a des chevaux qui savent ouvrir les portes, par exemple, pour ne pas avoir à s'arrêter, parce que là aussi, le plus difficile, c'est de démarrer un train de wagon ou de l'arrêter, parce qu'à ce moment-là, les wagons vous rentrent dans le postérieur. Et donc, pour éviter ça, certains chevaux apprenaient à pousser avec le frontal, pousser les portes et à ne pas s'arrêter.
Vous avez pris l'habitude, vous travaillez en tant qu'historien, en prenant le point de vue subjectif des animaux eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on sait, par exemple, du stress de ces animaux de mine, de ces chevaux de mine? Est-ce qu'on peut imaginer quel est leur stress? Ils sont dans le noir, et ils sont bousculés par des hommes qui veulent un rendement plus élevé. Est-ce qu'on a une idée de cela?
Oui, on a une idée parce qu'on a des textes de vétérinaires. Lorsque le doctorat vétérinaire est institué en 1929, il y a pas mal de vétérinaires en exercice qui, pour se mettre en réglementation, vont passer une thèse et on leur permet à l'époque de parler de leur expérience professionnelle. Et on a donc comme ça des thèses de vétérinaires travaillant dans les mines et qui voient bien les choses, et notamment le stress des chevaux. Alors le stress des chevaux, c'est quoi? C'est pas tellement le noir, parce qu'ils voient beaucoup mieux que les humains, et ils peuvent se repérer dans le noir sans aucun problème. D'ailleurs, lorsqu'on dételle le cheval, bien souvent les mineurs, pour retrouver leur route, suivent le cheval. Hein. Mais c'est plutôt les courants d'air, comme on a dit, c'est plutôt la poussière, c'est plutôt les sangles, qui rabote les toisons, et dans la toison, il y a de la poussière, et donc cette poussière, ça fait presque rabot entre les sangles en cuir et la poussière, ça frotte sur les poils, ça frotte sur la peau. Hein, et là, ça peut créer des problèmes, des douleurs, et puis aussi des blessures.
Et on comprend à ce que vient de dire justement cet ancien ouvrier mineur, Émile Andréoli, qu'il y a ceux qui prennent soin de leurs chevaux, parce que c'est leurs compagnons d'une certaine manière. On les appelle d'un nom, on les connaît, on sait les dresser, on sait parler à ces chevaux. Puis ceux qui n'y prennent pas soin, et cela, ça crée des conflits à l'intérieur de la mine, par exemple.
Exactement. On se rend compte qu'en fait, c'est exactement comme le transport urbain avec le texte de Victor Hugo. Il y a avant tout un problème de psychologie, c'est-à-dire que c'est une rencontre entre un être vivant, un cheval, une vache, etc., et un autre être vivant qui est un humain. Et ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, et souvent ça se passe bien ou mal en fonction de l'effort que fait l'humain pour comprendre le partenaire. Alors il y a de bons conducteurs qui comprennent très bien, qui savent comment faire, qui lorsque au moment du casse-croûte, par exemple du briquet, le casse-croûte s'appelait le briquet, eh bien ils dételaient leur cheval et ils le mettaient dans un recoin pour éviter que le cheval prenne froid en courant d'air. Parce que si le cheval s'arrête et qu'il est en plein courant d'air, il va prendre froid. Donc
et puis on
le met dans un recoin.
Au moment du briquet, on peut aussi leur donner un peu de sa ration de pain avec du vin dessus, par exemple.
Exactement. Il y a des chevaux qui prennent l'habitude et qui demandent, oui, le pain dans du vin. Ils aiment beaucoup. Et donc là, on voit des affinités se mettre en place. Et c'est tout le souci, d'ailleurs, des compagnies, aussi bien des compagnies minières que des compagnies tramway, etc., c'est de trouver les bons conducteurs. Parce qu'un mauvais conducteur gâche tout. Il va employer la force, il ne va pas essayer de comprendre, il va employer la violence. Mais en face, ce ne sont pas des moteurs, ce sont des êtres vivants. Et un cheval battu, par exemple, au bout d'un moment, il va s'arrêter de travailler, il se met en grève.
Alors il y a un moment évidemment essentiel dans ce rapport de l'animal à l'homme, c'est la Grande Guerre. On écoute Maurice Genevoix à propos des chevaux dans la Grande Guerre, c'était en 1971 à l'occasion de la publication de son Bestiaire sans oubli à propos justement de ces mêmes chevaux.
Mort ou vivant, que de visages inoubliés. J'ai voulu dire aussi la passion des bêtes dans la guerre, des chats errants, des vaches perdues et sur tous les autres, des chevaux. Du vieux cheval gris des éparges que j'ai sauvé pour quelques jours. De celui qui criait dans la nuit en avant du bois de Saint-Rémy parmi les blessés abandonnés. Brancardier, appelaient les Français. Et les Allemands, Hilfe, Hilfe. Et puis cette longue plainte ululante, pathétique, comme les voix des hommes. Et comment s'effacerait la vision de cet autre cheval? Un Allemand, une bête de sel, magnifique, alezan clair, presque doré, lumineux, des attaches déliées et pures, une encolure gracieuse et souple, des yeux encore ardents, qu'une buée triste commençait à éteindre. Dans la forêt où pénétrait la route, la fusillade crépitait, étouffée par l'épaisseur des arbres. Les premières balles hachaient le taillis. Nous venions de prendre la formation d'approche en file indienne dans les fossés. Lui, il était debout au milieu de la chaussée, seul dans la pleine clarté entre les deux franges d'ombre où glissaient ces hommes furtifs. Je me suis retourné pour revoir cette créature splendide, pour l'admirer une fois encore, étreint par une angoisse où l'imminence du combat n'était pas seule à me serrer le cœur, car une de ses jambes de devant, déchirée à hauteur du poitrail, ruisselait de sang jusqu'au sabot. Par une artère ouverte, ce flot rouge affluait sans trêve, inépuisable, et tachait la route à ses pieds. Quand se coucherait-il dans ce sang, cheval mort au milieu de la route?
Une question de Maurice Genevoix dans son livre « Bestiaire sans oubli » à propos du cheval dans la Grande Guerre. Il connaît le cheval, il le connaît bien, il est capable de le décrire. Je pense que dans cette salle à Blois, peu d'entre nous sauraient dire si c'était un alezan clair, presque doré, lumineux, aux attaches déliées, comme le dit Maurice Genevoix. Il y a une connaissance humaine des animaux parce qu'on les fréquente depuis tout petit.
Il y a une connaissance, alors tout dépend des humains. Maurice Genevoix a vraiment l'œil. Il fait attention aux animaux. Et alors il y a ce texte-là, mais dans ceux de 14, par exemple, il parle sans arrêt des animaux. C'est ce qui rend, je crois, son... Ceux de 14 est sans doute le témoignage le plus humain pour nous sur la guerre de 14, parce qu'il est attentif à la souffrance de tout le monde, des hommes et des bêtes, et il voit très bien comment souffre un cheval, et notamment cette question des cris. Alors ça, les cris des chevaux, on a plein de textes comme cela. Vous avez notamment un passage dans Remarque à l'Ouest, rien de nouveau, où il raconte comment son équipe ne peut plus supporter le cri des chevaux blessés qui agonisent entre les fronts et qui hurlent au brancardier justement « achevez-les, achevez-les ». Parce que les hommes meurent, entre guillemets, ils l'ont voulu, entre guillemets, hein. Mais les chevaux, pour les soldats, ça devient le symbole même de la stupidité, de l'absurdité de la guerre. Et ça, ils ne peuvent plus l'entendre. Mais finalement, où est-on où on en vient à faire souffrir les chevaux, mais eux, ils n'ont rien demandé?
D'autant qu'on va les multiplier, ces chevaux, pendant la guerre. Ils vont devenir de plus en plus nombreux. On va même, et on va en parler dans un instant, aller chercher les chiens aussi pour pouvoir travailler dans les tranchées. On va donc utiliser cette force animale pour faire la guerre, et ils vont arriver de partout, y compris des États-Unis, Éric Baraté.
Oui, on a besoin absolument des animaux à l'époque. Ça peut paraître paradoxal. Nous avons de la guerre, de la Première Guerre mondiale, une vision de guerre déjà mécanisée, hein, les avions, les tanks, les camions, etc. Et c'est encore pire, plutôt pour la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, pour les gens de l'époque, c'est complémentaire. Parce qu'un attelage de chevaux, par exemple, va pouvoir passer dans un petit chemin là où un camion ne pourra pas passer. Un attelage de chevaux pourra passer dans un terrain boueux là où un camion va s'enfoncer. Hein, donc tout est complémentaire, et de même qu'on emploie des chiens, des pigeons voyageurs. Et on a besoin énormément de chevaux, et ces chevaux sont à la base de la guerre. Sans les chevaux, il n'y a pas de guerre possible.
Oui, Céline dit ils font preuve d'un courage sans limite, les chevaux, dans cette Première Guerre mondiale.
Oui, parce que, pour revenir au texte de Genevoix, hein, ce cheval qui reste immobile, eh bien ça c'est quelque chose qu'on connaît bien maintenant, le cheval va jusqu'au bout de ses forces. Et lorsqu'il n'en peut plus, il s'arrête. Et alors là, pendant la guerre, là, les hommes le comprennent à force d'en voir. Et un cheval qui s'arrête n'ira pas plus loin. Donc il n'y a plus qu'à le dételer, à le laisser, il va mourir sur place. Et en fait, beaucoup de chevaux donc meurent comme ça, laissés sur le côté, ou alors font des crises cardiaques. Ils tombent en plein attelage. On a beaucoup de chevaux qui montrent un cheval, un mulet, tomber, crise cardiaque d'un coup.
Alors, on peut aussi rajouter à l'écriture de Genevoix celle de Pierre Lemaître, qui dans Au revoir là-haut décrit un homme, Albert Maillard, sauvé par le soupir d'un cheval qui meurt à côté de lui sous la terre pendant un bombardement. Cela, c'est extrêmement important parce que il y a cette force mécanique des armes et des bombardements qui font peur aux chevaux aussi. Et c'est quelque chose de terrible, Éric Baraté, qui leur arrive. Ils n'ont jamais entendu ce bruit-là. Les hommes ne l'ont pas entendu, mais les chevaux encore moins.
Oui, et ils ont une ouïe beaucoup plus développée que la nôtre. Hein, nous sommes sourds par rapport à eux. À tel point, alors ça leur sert, parce qu'ils arrivent à repérer les obus allemands et les obus français. Hein. On a des textes qui racontent que lorsque ce sont des obus allemands, les chevaux, les ânes se cachent. Lorsque ce sont des obus français, si ce sont des équidés français, ils ne bougent pas. Et les soldats prennent modèle là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'eux qui ne savent pas souvent faire différence entre les obus, au sifflement de l'obus dans l'air, eh bien, ils prennent modèle, et on a des textes qui racontent que hommes et ânes, par exemple, se jettent dans les trous ensemble.
Cette mondialisation, justement, de cette Première Guerre mondiale, cette mondialisation conduit aussi à faire venir des races d'ailleurs. On fait venir 570 000 chevaux et mulets depuis les États-Unis.
Oui, parce que pendant l'été 14, on croyait une guerre courte. Et donc, il fallait aller le plus vite possible. Finalement, on pensait que le vainqueur, c'était celui qui irait le plus vite. Et donc, on n'a pas regardé à la peine pour les chevaux. On y est allé franchement, en leur demandant 50, 80 km par jour, plusieurs jours de suite, ce que la plupart des chevaux sont incapables. Un cheval de mine, il peut vous traîner 50 tonnes sur 300 mètres, mais lui demander de faire 50 km, il n'en est pas capable. Un cheval de course, c'est pareil. Tous les étalons, tous les chevaux de course enroulés en juillet 14, début septembre, sont morts. Parce que 50 km, plusieurs jours d'affilée, ça n'est pas possible, il n'y arrive pas. Et ce sont en fait les chevaux polyvalents. Mais il y a une énorme mortalité, et pas simplement la guerre, pas les balles, les bombes, etc. Mais l'énorme mortalité, c'est à la fois la fatigue et puis la non-adaptation, c'est-à-dire que la rupture est telle avec la réquisition, le changement de monde, etc., que ces chevaux n'y font pas. Et donc, on manque de chevaux à l'automne, et il faut aller en chercher en masse.
Et évidemment, ces chevaux, pour beaucoup, vont mourir, mais aussi vont tenter de survivre à des conditions qui sont très difficiles. On sait combien c'est difficile pour les hommes. C'est la boue, ce sont les rats, évidemment, pour les hommes qui sont souvent racontés, mais dans ces tranchées, c'est la boue. Et donc, cette boue, il faut s'en sortir. Or, ces chevaux qui sont habitués à tirer des chariots sur les routes ou à tirer des attelages dans la campagne ne sont pas habitués à ces tonnes de boue qui leur collent aux sabots.
Exactement. Le cas le plus flagrant, ce sont les Flandres, côté anglais. Et on a plein de témoignages qui racontent que des attelages tombent dans des trous de buis qui petit à petit ont été recouverts de boue, mais de la boue, ça devient une espèce de sable mouvant, et qui s'enfonce petit à petit chevaux et canons qui s'enfoncent dedans et qui disparaissent. Et ça crée, alors certains ça ne les gêne pas, mais d'autres ça crée des drames humains. Il y a des textes d'anglais qui racontent comment, même avec danger, sous la mitrailleuse des Allemands, eh bien, ils essayent de se précipiter pour sauver leurs chevaux. Et alors, quand on lit les textes, on dit exagération. Non, on trouve des photographies qui montrent justement ces chevaux qui s'enfoncent, hein, qui n'y arrivent plus, et qui disparaissent petit à petit.
Les chevaux et les chiens aussi. Dans ces tranchées, on écoute une lecture par Vincent Schmitt d'un article de Colette sur les chiens sanitaires publié dans Le Flambeau le 29 mai 1915 et qui a été diffusé sur France Culture dans une émission qui s'appelait La Fabrique de l'Histoire le 8 février 2019.
Il porte un carapaçon timbré de la Croix-Rouge. Il est gris de poils, fauve de prunelles. Il montre des dents de loup et 6 doigts à ses pattes de derrière. Au carrefour, un lieutenant d'infanterie garde à présent Turco au bout d'une courte laisse et baisse orgueilleusement les yeux sur lui. « Ils vont partir ensemble demain, m'explique-t-on. Ils rejoignent, à Arras. » Près de moi, j'entends « Nous n'en aurons jamais assez. En Allemagne, ils en ont des milliers. 22 des nôtres, sur les 180 qui sont dans la banlieue, vont partir cette semaine pour le front. » Parfaitement instruit. Parfaitement instruit? Soldat ou chien? Je ne sais plus de qui l'on parle. Ceux-ci sont dignes de cela. Il n'y a qu'à voir s'éloigner ensemble, déjà amis, ces deux braves qui rejoignent demain. Le lieutenant et le chien Turco. Drap bleu-gris et poils gris-bleu. Silencieux, agiles, ils sont déjà couleur d'horizon, couleur de l'ombre azurée des haies, couleur de l'argile bleuâtre des tranchées. Un beau couple de chasseurs qu'on citera peut-être ensemble, car l'œuvre a son tableau d'honneur et ses martyrs. Chiens, nos compagnons dans la guerre et dans la paix. Chiens, de qui la confiance humaine exige et reçoit tout. Chiens, c'est pour notre édification que je veux dire le beau destin de Pic, chien sanitaire fameux. Il servit son pays et ses frères soldats et mourut glorieusement le flanc percé d'une balle allemande. Et quant au petit fox-terrier anonyme, gros comme un lapin, qui, après avoir retrouvé 150 blessés à la bataille de la Marne, s'égara et sut revenir à son maître à travers les lignes ennemies, celui-là a déjà reçu sa récompense. Il est retourné au front, dans les Vosges.
Ils sont tellement importants, ces animaux et ces chiens, Éric Baraté, pendant la Première Guerre mondiale, qu'on les décore.
Oui, alors surtout côté allemand et côté anglais, hein. Peu côté français ou alors à la sauvette dans à l'intérieur du régiment, de la section, mais c'est pas tellement officiel. L'armée française n'a pas l'habitude de ça. Mais ces chiens montrent à quel point l'époque, le 19e, mobilise tous les animaux. Et à partir des années 1850, on utilise beaucoup les charrettes à chiens. Hein, et donc ça n'est pas une nouveauté que les emmener dans la guerre. Cet emploi multiple des chiens, finalement, c'est déjà au moment de la paix. Hein, et donc on le fait pour la guerre, et on le fait par exemple pour les chiens sanitaires. Alors ça marche surtout en 14, lorsque le front bouge. Le gros problème, c'est comment récupérer les blessés. Le front de la bataille de la Marne fait 50 km de long. Hein, donc retrouver les blessés sur 50 km de long, c'est pas évident, d'où l'idée préalable qu'avaient eu les Allemands, puis les Français ont suivi, d'avoir des chiens sanitaires pour retrouver les blessés et pour pouvoir les soigner plus facilement. Mais avec la guerre des tranchées, leur rôle va décliner et ce seront plutôt les chiens messagers qui vont entre les premières lignes et l'arrière, ou alors les chiens porteurs de but, ou alors les chiens guetteurs, c'est-à-dire qui ont une très bonne ouïe ou un très bon flair, et qui peuvent repérer l'arrivée des ennemis. Alors pas l'arrivée lors d'une attaque, hein, ça avec le déluge de bombes, tout le monde est capable de voir. Mais ce qu'on craint beaucoup, ce sont les coups de main à la nuit, hein, où chaque armée va chercher des prisonniers. Et le problème, c'est qu'on n'en veut qu'un. Et si on en tombe, sur 3 ou 4 prisonniers, soldats, on tue à l'arme blanche les autres, hein, pour n'en prendre qu'un. Et ça, les soldats redoutent beaucoup. Et donc, on utilise les chiens pour prévenir.
Comment on va en sortir de cette civilisation des bêtes? Vous avez expliqué tout à l'heure, Éric Baraté, qu'effectivement, il y avait la motorisation, la mécanisation, que déjà, effectivement, pendant cette fin de Première Guerre mondiale, on sait utiliser d'autres armes que les armes et d'autres modes de transport que les modes de transport animaux. On va en sortir progressivement. C'est lent comme sortie de cette civilisation de l'animal-machine?
Oui, c'est très progressif, parce que, par exemple, si on prend la guerre, on peut penser qu'on utilise beaucoup de chevaux en 14 et puis moins en 18. C'est vrai en partie, et c'est en grande partie faux si vous lisez les mémoires de Foch. Quel est son grand souci en septembre 18 lorsqu'il va lancer la grande offensive? C'est pas de savoir s'il a assez de canons, assez d'avions, assez de chars, c'est est-ce qu'il aura assez de chevaux en bon état. Donc c'est encore très complémentaire, et dans les mines de l'entre-deux-guerres, on voit arriver les locomotives qui remplacent les chevaux, mais ces locomotives, on ne peut pas les faire passer de partout. Il y a des galeries très étroites où elles ne peuvent pas passer, il vaut mieux des chevaux, et puis il y a des galeries ou des mines où l'exploitation est difficile, et donc mécaniser ça, ça n'est pas rentable. Donc on va garder encore longtemps les chevaux.
Alors évidemment, peut-être les premiers à s'en passer, ce sont les villes.
Oui, alors Paris par exemple, la dernière ligne de tramway à cheval, c'est 1913.
Juste avant la guerre.
Juste avant la guerre, c'est la fin. On a totalement motorisé. Et le journal L'Auto, dans son numéro, au moment de l'arrêt, titre, on a une photo du tramway à cheval, et il titre en gros « La fin de l'esclavage chevalin ».
Oui, il faut bien comprendre ce que ça veut dire.
Voilà, faut bien comprendre ce que ça veut dire. Nous, on comprend la fin de l'esclavage des chevaux. Non, pour eux, c'est la fin de l'esclavage des hommes par les chevaux. Parce que les chevaux, faut s'en occuper, ils tombent malades, faut les nourrir. Et puis, ils peuvent pas rouler 24 heures sur 24, alors que une voiture, si on change le chauffeur, elle pourra rouler beaucoup plus de temps.
Alors, c'est une transformation industrielle très importante. Il va falloir changer les carrosseries hippomobiles en carrosseries automobiles. Mais c'est pour ça qu'on garde encore les mêmes termes. On appelle encore une berline, un coupé. Mais on va enlever les chevaux, mais on va les garder dans le moteur. On appelle ça des chevaux vapeur.
Exactement. Ou le terme de camion, par exemple. Le terme de camion est utilisé au 19e siècle et il va servir ensuite à parler de camions. On ne peut pas trancher. On le voit bien de nos jours, d'ailleurs, avec l'arrivée de la voiture électrique. Je suis très frappé du fait que les constructeurs gardent à peu près les formes habituelles, alors qu'avec une voiture, un moteur électrique, ils pourraient trancher totalement. Ils ne le font pas, sans doute, parce que pour ne pas perturber les gens. Et à l'époque, c'est la même chose. On passe de la berline à cheval à l'automobile, en gardant à peu près les mêmes carrosseries, pour pas trop perturber.
Alors, ça, c'est pour les villes. Pour les campagnes, ça sera plus lent, tout de même. Parce que c'est plutôt après la Seconde Guerre mondiale qu'on arrivera à transformer l'énergie des animaux, qui vous aident à travailler dans les champs, en énergie mécanique et motorisée.
Oui, dans les campagnes, on a même, pendant l'entre-deux-guerres, un phénomène même de sur équipement en animaux, parce qu'il y a la reconstruction dans certaines régions, il faut relancer la production agricole, etc. Et donc on va encore plus s'équiper en chevaux et en bovins dans l'entre-deux-guerres. Alors on voit arriver les premiers tracteurs, évidemment, mais ça reste une exception. Et le changement se fait surtout dans les années 50, essentiellement...
Le plan Marshall.
C'est le plan Marshall, mais essentiellement pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire les jeunes paysans, les enfants de paysans, s'ils veulent, ils le disent à leurs parents, si vous voulez que je garde la ferme, je ne veux plus garder de chevaux. Ça fait trop vieux, ça fait trop ancien. Donc on va s'équiper en tracteur, à la fois parce que c'est plus efficace, mais aussi parce que c'est la modernité. Et des agriculteurs qui vont s'équiper en tracteur alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin, que c'est pas forcément rentable.
Mais il y a une bonne propagande qui se fait autour justement de l'arrivée de ces tracteurs, en particulier les tracteurs américains dans les boîtes en pitch-pain de l'Oregon qui arrivent dans les ports européens, et donc il y a là les tracteurs qui vont aider les paysans, et on voit par exemple dans certains film du plan Marshall, des tracteurs qui arrivent en Grèce. C'est difficile d'imaginer qu'on a vraiment besoin d'un tracteur en Grèce en 1947-48, mais néanmoins, on les voit arriver en Grèce et on voit qu'on troque les ânes contre les chevaux, Éric Barthes.
Oui, il y a une forme de prestige social. Évidemment, entre deux paysans, l'un qui a encore ses bovins et ses chevaux et l'autre qui passe en tracteur, ça pose problème pour celui qui est encore équipé en animaux. On a connu la même chose au XIXe siècle entre ceux qui n'avaient pas d'animaux et ceux qui en avaient, ou ceux qui avaient qu'un cheval et ceux qui en avaient deux. Et il y a encore, on laboure encore à la main en Alsace au XIXe siècle. Hein, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de chevaux. Il y a ce même côté de différenciation sociale et qui fait que finalement, tous les agriculteurs dans les années 50 vont vouloir avoir le tracteur.
Alors même si aujourd'hui il y a un retour de l'attraction animale, en particulier dans des fermes bio ou dans des endroits qui pratiquent la permaculture, la grande partie de la relation entre l'homme et l'animal, c'est l'animal domestique que l'on a chez soi, et ça n'a pas grand-chose à voir avec ces animaux de bêtes de somme ou bêtes de trait dont on parlait tout à l'heure, Éric Barinté.
Alors, oui et non, c'est vrai que il peut y avoir quand même, il pouvait y avoir des relations très fortes entre le paysan et son cheval, entre une fermière et sa vache. Dans La Terre de Zola, il y a un très beau portrait des liens entre une fermière et sa vache. Elle a une vache. Et donc, il pouvait y avoir ça. Alors, évidemment, avec l'animal de compagnie, c'est beaucoup plus fort, surtout avec les Trente Glorieuses, où il y a une espèce de vulgarisation sociale de l'animal de compagnie qui était réservé à l'aristocratie, à la bourgeoisie, et toutes les classes moyennes se mettent à cela. C'est Boule et Bill en bande dessinée, hein, c'est la deux chevaux, l'enfant unique, la maison en banlieue pavillonnaire, et le chien de la famille qui participe à, qui ont fête l'anniversaire, qui participe à Noël, etc., etc.
Merci beaucoup, Éric Barinté, d'avoir, à l'occasion de ces rencontres et ces rendez-vous de Blois autour du travail, évoqué justement ce travail des animaux qu'on oublie trop souvent et qui nous ont accompagnés dans un travail difficile, que ce soit dans les mines, dans les champs ou dans les villes au 19e et au 20e siècle. Si vous voulez en connaître plus sur le travail d'Éric Barinté, justement sur cette réflexion sur les rapports entre les hommes et les animaux, Bêtes de Somme, des animaux au service des hommes, c'était en 2011, on trouve ça en Point Histoire. Le Point de vue animal, c'est une autre version de l'histoire, c'était l'univers historique en 2012. Bêtes de tranchée, des vécus oubliés, c'était aux éditions du CNRS. Les biographies animales, qui est une véritable transformation du regard que l'on peut porter sur les animaux, puisque vous tentez de les faire parler en tant qu'historien, des vies retrouvées, c'était en 2017 au Seuil, et puis les cultures félines, c'est le plus récent, autour des chats qui créent leur histoire. Lequel serait le plus proche de notre discussion ?
Oh, sans doute Bêtes de Somme et Le Point de vue animal. Oh, et Bêtes des tranchées, enfin tous, quoi.
Il y a un salon du livre ici, on va pouvoir les trouver. Vous pourrez trouver la bibliographie complète sur notre site, ainsi que les références des documents sonores utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter, podcaster, évidemment, cette émission sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Samedi prochain, Concordance des temps sera consacrée à l'histoire des fonctionnaires. Et vous retrouverez évidemment Jean-Noël Jeannet, qui recevra à cette occasion l'historien Émilien Ruiz pour son livre « Trop de fonctionnaires ». Une obsession. Lundi matin, vous allez retrouver à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine à Quand la religion tue. Pour l'instant, on écoute Brassens, Le petit cheval, un poème de Paul Fort.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage, c'était un petit cheval blanc. Tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière lui, devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière, c'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière lui, devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant.
C'était Concordance des temps, l'émission de Jean-Noël Jeannet qui me l'a prêté exceptionnellement aujourd'hui, donc Emmanuel Laurentin au micro. Merci à lui de m'avoir permis cette expérience. Merci aussi à Jeanne Guéroux qui l'a préparé et à Yael Mandelbaum qui l'a réalisé, et pour leur bienveillance à toutes les deux, à la prise de son Fabien Gosset, Geoffroy Marianne et Mathieu Leroy et Alain Pied, à la discothèque Nathalie Rouvillain, pour les archives Ina à Anne Delaveau. Un grand merci aux équipes techniques de Radio France et aux équipes des Rendez-vous de l'Histoire. Et dans un instant, tout de suite, vous allez retrouver ici même à Blois Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.
France Culture, l'esprit d'ouverture.